Cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jodard, le 1er mars 1988.
Nous essayons de comprendre comment, dans la lumière de la création, donc dans un jugement de sagesse, où nous découvrons que nous sommes dépendants radicalement dans notre être, dans notre esprit, du Créateur qui est notre Père, puisqu'il nous a créés dans un acte d'amour et dans la lumière de sa sagesse. Nous comprenons alors comment chacun d'entre nous, c'est-à-dire chaque homme, que nous connaissions ou ne connaissions pas, est connu et aimé par Dieu Créateur, par le Père, et qu'il y a dans chaque homme quelque chose d'unique. C'est toute la question de notre âme qui spécifiquement est la même pour nous tous. Mais comme cette âme est créée dans le corps, dans l'embryon, immédiatement, elle est individuée, au plus intime d'elle-même, substantiellement individuée. Et c'est par là qu'on découvrira progressivement le problème de la personne. Chacun d'entre nous, dans notre personne, nous sommes uniques. Par notre âme, spécifiquement, nous ne sommes pas du tout uniques. Celui qui est à côté de nous nous remplace très bien. Nous faisons partie de la série, si j'ose dire. Puisque celui qui est à côté de moi a la même âme spécifiquement. Donc il peut me remplacer. Mais au niveau de ma personne, vous voyez, c'est là où il faut bien comprendre. Dieu crée l'âme, mais au sens très précis. La personne humaine, comme personne humaine, n'est pas immédiatement créée. Je dis bien n'est pas immédiatement créée, puisque mon corps n'est pas immédiatement créé. Mon corps provient de mes parents. Mon corps a tout un atavisme de l'espèce humaine. Et donc il n'est pas immédiatement créé. Et si je réfléchis un instant sur toutes les qualités que j'ai pu acquérir depuis mon berceau, j'espère qu'on a acquis quand même quelques-unes. Il y a les talents premiers, puis progressivement, malgré notre paresse radicale et initiale, nos gémissements, nous avons été à l'école, nous avons acquis progressivement l'habitus mathématique, c'est le premier qu'on acquiert. Et puis après, on a acquis progressivement des habitus philosophiques, des vertus. C'est un peu bancal, mais ça fait rien. C'est quand même quelque chose. Et puis peut-être un habitus d'art. C'est tout ça, notre personne. Et au point de vue de notre personne, nous sommes ineffables. Personne ne peut nous remplacer. C'est merveilleux. Irremplaçable de notre individualité, de notre personne. Vous voyez cette chose très curieuse, hein ? Et ça, l'éthique religieuse doit en prendre un sens très aigu. Que nous sommes que nous faisons partie de l'espèce humaine et donc sommes tous au même niveau. Votre intelligence est spécifiquement la même que la mienne. C'est pour ça qu'on peut discuter. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes super intelligent, les surdoués, super intelligent, et que votre intelligence est spécifiquement différente de la mienne. Non. C'est pour ça qu'on peut toujours se retrouver. Même si on est très très différent, point de vue éducation, point de vue atavisme, on peut toujours se retrouver parce qu'il y a quelque chose de commun. Spécifiquement, c'est pas un petit rien. Donc c'est radical. Primo, cadit, in, tel et tous, ens. C'est vrai pour vous, c'est vrai pour moi. Donc il suffit de saisir cet ens pour comprendre qu'il y a quelque chose de commun, et c'est formidable, puisque c'est la substance, etc. C'est la vie de notre intelligence. Et pourtant, au point de vue de notre personne, notre individualité, nous sommes uniques. Ça, c'est capital de découvrir ça. D'abord, ça nous donne un tout petit peu de courage. Comprendre quand même, hein, qu'on a notre petit rôle à jouer. On a une autonomie radicale au point de vue de notre personne. Et ceci est aimé de Dieu. Dieu le veut. Il y a notre originalité propre et unique. Découvrir cela, c'est comprendre que dans chaque personne humaine, puisqu'il y a quelque chose d'unique, quelque chose que nous n'avons pas inventé, et que chaque personne humaine a découvert. Vous découvrez tous les jours un peu plus vos dispositions naturelles. Et tous les jours, vous acquérez un peu plus vos habitus de sagesse. Vous y tendez, quoi. Et philosophique, et artistique, et vertueux. Et donc, tous les jours, vous devenez un peu plus original, un peu plus unique. Et un peu plus irremplaçable. Et quand quelqu'un dit par humilité, oh, on peut très bien me remplacer. Attention, vous êtes irremplaçable. Et quand on dit ça, on est dans la vérité éthique. Vous êtes irremplaçable. Et tant que vous n'avez pas atteint cet irremplaçable, vous n'avez pas atteint ce qu'il y a de particulier à chacun. C'est ça qui fait que l'amour qu'on a pour chaque homme implique ce respect radical. L'autre est irremplaçable. Et en même temps que j'ai ce respect, je découvre qu'il y a en lui quelque chose de plus grand que je n'ai pas. De plus grand que moi, que je n'ai pas. Par là, nous découvrons progressivement ce que c'est que l'humilité. L'humilité par rapport à Dieu, l'humilité par rapport au prochain, l'humilité par rapport à nous. C'est très curieux, comme l'humilité implique cette connaissance très profonde dans la lumière de la sagesse de Dieu. C'est que l'humilité, c'est une petite vertu, mais c'est une très grande vertu. Parce que elle implique cette connaissance très profonde de l'autre dans la lumière de la sagesse de Dieu. De l'autre dépendant du Créateur, de l'autre me dépassant. de l'autre ayant son originalité propre. L'humilité, c'est cette vertu qui me permet de découvrir dans l'autre ce que moi je n'ai pas. Nous savons très bien, parce que notre psychologie est pétrie d'orgueil. Ce qui est le plus radical dans notre psychologie, c'est l'orgueil. Au point de vue humain. C'est-à-dire ce souci de nous exalter, d'être seul. Ça, nous savons très bien. Et nous luttons contre cela par l'humilité, en découvrant chez l'autre quelque chose que nous n'avons pas, pour le laisser passer devant nous. En toute vérité, vous voyez, il ne s'agit pas d'imaginer. L'humilité n'est pas à base d'imagination. Elle est à base d'une réalité. Et celui qui s'imagine qu'il est un pauvre type et que tous les autres sont des gens merveilleux, alors on s'imagine ça. Alors on n'est plus dans la vérité. L'humilité implique un regard de vérité. Il n'y a pas d'humilité sans la vérité. Donc il faut dépasser ce qu'on appelle au point de vue psychologique le complexe d'infériorité ou le complexe de supériorité. Parce que pour chacun d'entre nous, on a un miroir grossissant ou amaigrissant. On fait un complexe d'infériorité quand on a en nous un miroir amaigrissant. Ah, le pauvre type que je suis. Quelquefois, c'est un orgueil fou, c'est qu'on ne veut pas se regarder vraiment. Alors on fait un complexe d'infériorité ou un complexe de supériorité. La vérité dépasse l'imaginaire. Il n'y a pas de vérité dans l'imaginaire. Et la vérité, là, profonde sur nous, sur notre propre individualité et notre propre personnalité, consiste à découvrir dans la lumière du Créateur que nous sommes uniques, nous, et qu'à côté de nous, il y a quelqu'un aussi d'unique. Et que ce quelqu'un d'unique a quelque chose que nous n'avons pas. Un petit quelque chose qui vient de Dieu et que nous n'avons pas. Et donc, en toute vérité, nous le laissons passer devant nous. Et en toute vérité, nous reconnaissons ce que Dieu nous a donné d'unique. Mais c'est très grand, l'humilité. Les Grecs, dans une éthique purement naturelle, reconnaissaient que la chose la plus terrible, c'était l'orgueil. Et dans leur manière de concevoir l'éthique religieuse, c'est-à-dire face à Zeus, une éthique aristotélicienne, platonicienne, stoïcienne, reconnaissait que ce qu'il y avait de plus terrible, c'était l'orgueil. Et c'était cela que les dieux punissaient le plus. Et le théâtre grec le montrait, l'hubris, l'orgueil. Ah, je crois qu'il faut le bien saisir, hein, dans une éthique religieuse. Nous y reviendrons. Mais dès qu'on parle de l'humilité, il faut parler de l'orgueil. Hein, parce qu'on ne comprend l'humilité que face à l'orgueil. Vous êtes bien plus familiarisé avec l'orgueil qu'avec l'humilité. Je vous dis ça en toute humilité, n'est-ce pas ? Vous êtes bien plus familiarisé. Chacun d'entre nous. Nous avons une connaturalité effrayante avec l'orgueil. En tant que chrétien, je peux dire on est né dans l'orgueil. C'est Maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous êtes né dans l'humilité. Non. Ni vous ni moi, on n'est pas né dans l'humilité. Notre berceau n'était pas un climat d'humilité. Notre berceau était un climat d'orgueil. Et on a reçu toutes les flatteries. Oh, regardez ce petit, comme il est mignon, comme il est merveilleux. Il est le plus beau de tous. Et on a encaissé tout ça. Sans aucune critique. Et on était très heureux. Et on souriait à tout ça. Mais quelle mauvaise éducation. On a été éduqué dans un climat d'orgueil, de flatterie, d'admiration. Puis à un moment donné, on a découvert que tout ça, c'était imaginaire. L'orgueil entretient l'imaginaire. Et la vérité ne veut pas d'imaginaire. Et l'humilité ne veut pas l'imaginaire. Elle veut le réel. Et on découvre à ce moment-là, c'est vrai, notre fragilité, nos limites. Et on découvre en même temps qu'à côté de nous, il y a des êtres humains qui ont quelque chose que nous n'avons pas. C'est très beau, la découverte de l'autre au point de vue éthique, éthique religieuse. L'autre est aimé de Dieu d'un amour unique. Et je dois découvrir ce qu'il y a d'unique en lui. Et en découvrant ce qu'il y a d'unique en lui, je le laisse passer devant moi. En toute vérité, je m'humilie devant lui. C'est-à-dire que je reconnais qu'il y a en lui quelque chose que je n'ai pas. C'est ça la véritable humilité. Vous voyez, se mettre dans la vérité face à notre Dieu créateur, notre Père. Et en même temps que je reconnais qu'il y a en lui quelque chose que je n'ai pas, je reconnais humblement qu'il y a quelque chose en moi que lui n'a pas. Mais cette vérité très profonde de l'humilité. Et pour être sûr de ne pas me tromper, je demande à celui à qui j'ai toute confiance, est-ce que c'est vrai, ce quelque chose que je découvre en moi, qui me semble être un don particulier de Dieu. On est confirmé par ceux qui sont proches de nous, l'ami. C'est très important, vous voyez, cette vertu d'humilité. La terre vint au service de la femme, c'est dit dans l'Apocalypse. La terre, c'est ce sens d'humilité. On est lié à la terre. Tu es poussière et tu retournes en poussière. Ça, c'est l'humilité. Et l'humilité qui vient directement du regard religieux. Tu es poussière et tu retournes en poussière. On n'est pas grand-chose. Et pourtant, on est aimé d'un amour unique. Mon voisin aussi, il est poussière. Il n'est pas grand-chose, mais il y a en lui quelque chose d'unique. Mais c'est réciproque, ça. C'est ça qui est très curieux. C'est pour ça que je dis que l'humilité implique toujours ce regard vers Dieu, ce regard vers le prochain et ce regard vers moi-même. C'est un carrefour. C'est ça, l'humilité. Découvrir qu'il y a en moi quelque chose d'unique. Découvrir que dans l'autre qui est à côté de moi, il y a quelque chose d'unique. Vous voyez, en ce sens-là, on peut dire que l'humilité implique un ordre. Puisqu'elle me met en dépendance de Dieu, elle met l'autre en dépendance de Dieu, elle me situe par rapport à l'autre, à la fois comme reconnaissant que l'autre doit passer avant, et reconnaissant qu'il y a en moi quelque chose que l'autre n'a pas. C'est un tissu ordonné la lumière du Père, dans la lumière du Créateur, où j'aime mon prochain d'une manière unique, et je m'aime d'une manière unique, et j'adore Dieu d'une manière unique. C'est tout cela l'humilité, et ça naît à partir de là. C'est une vertu qui s'acquiert progressivement, et qui s'acquiert dans la lutte. Je crois que c'est la vertu où il faut le plus lutter. C'est très curieux. À cause, justement, de ce fait que l'orgueil est tellement contemporain de notre être. Au plan philosophique, je ne peux pas parler du péché originel, mais je m'aperçois combien l'orgueil pousse constamment. Dès que je coupe un peu, l'orgueil, ça repousse. Il y a des tailles hivernales, des tailles du printemps, des tailles de l'été et de l'automne, et que c'est même pas suffisant. Ça repousse tout le temps. C'est extraordinairement vivace, l'orgueil. Alors qu'est-ce que c'est que l'orgueil? Pour mieux comprendre ce que c'est que l'humilité. L'orgueil au plan philosophique, l'orgueil, c'est cette poussée d'exaltation de nous. Nous sommes seuls à atteindre la vérité de façon pratique. Exaltation de soi. On veut toujours être premier. Et on n'accepte pas qu'à côté de nous, il y ait quelqu'un qui puisse passer devant nous. On n'accepte pas ça. Dans l'orgueil, on veut toujours dominer. Et dans l'orgueil, on essaie toujours de découvrir ce qui en nous est unique. Et on le découvre en l'exaltant, sans vouloir comprendre qu'il y a dans l'autre quelque chose d'unique. C'est très exclusif, l'orgueil. C'est terriblement exclusif. Et on écarte l'autre. Alors que l'humilité est accueillante. L'orgueil, c'est juste l'inverse. L'orgueil, c'est dans la volonté. Et la matière de l'orgueil, c'est l'intelligence. J'exalte ma propre intelligence. Je crois que l'orgueil, c'est toujours l'exaltation de notre propre intelligence. Et de notre propre jugement. C'est pour ça que l'orgueil est l'ennemi numéro un de l'amour. L'orgueilleux ne peut plus aimer, parce qu'il s'aime trop. Et donc toutes ses capacités d'aimer sont mobilisées autour de lui. L'orgueilleux s'enferme en lui-même, imaginativement, comme le seul être intéressant. L'orgueilleux se considère comme le seul être intéressant. Les autres sont tellement inférieurs à lui, sont tellement peu de choses à côté de lui, que l'orgueilleux s'enferme en lui, s'enferme dans sa tour d'ivoire. C'est extraordinaire comme l'orgueil est tenace. Il faut le dépister, hein, parce que l'orgueil prend des couleurs diverses. Suivant qu'on garde telle ou telle exaltation en nous. Exaltation de notre forme d'intelligence philosophique, artistique, affective. Vous voyez, il y a des modalités de l'orgueil différents. L'artiste n'a pas du tout le même type d'orgueil que l'affectif. Et l'intellectuel pur, donc le philosophe, a une autre forme d'orgueil que l'affectif. Mais on pourrait dire que l'orgueil touche même la sagesse. L'orgueil touche l'amitié, l'orgueil trois pointes. Et là, les quatre pointes où notre intelligence est capable d'être prenée. La sagesse implique un ordre. Le premier, c'est Dieu. L'amitié implique un ordre. Le premier, c'est l'ami. La prudence implique un ordre où on essaie de se mettre au service de la sagesse et au service de l'amitié. Et l'art est ordonné à l'œuvre. Eh bien, l'orgueil va corrompre ces quatre grands aspects qui sont en nous. Ça, c'est très net. Et c'est terrible de voir la corruption de la sagesse, la corruption de l'amitié, la corruption de la prudence et la corruption de l'art par l'orgueil. On a l'exaltation de l'intelligence. Je crois que c'est très très important de comprendre ces quatre grandes modalités de l'orgueil. C'est tout à fait différent. Eh bien, l'humilité va lutter contre cet orgueil. Vous aurez donc quatre grandes formes d'humilité. Une humilité qui permet à la contemplation de Dieu d'être première. L'humilité qui consiste à recevoir l'ami comme l'ami, de recevoir l'ordre prudentiel au service de la sagesse et au service de l'amitié, dans la prudence. Et l'humilité va se retrouver jusque dans l'art. C'est très curieux, ça. Je crois que c'est très important et de découvrir au niveau éthique religieuse ces quatre grandes modalités de l'humilité. L'humilité est toujours au service d'autre chose. Je ne suis pas un pour être un, vous comprenez, hein ? Parce qu'alors là, ce serait encore l'exaltation de soi. Je suis, regardez-moi bien, je suis l'être le plus humble qui soit. Alors, à ce moment-là, l'humilité s'exalte. Et ce n'est plus l'humilité, elle se corrompt. L'humilité est une vertu très, très particulière. Elle nous met au service. Et elle accepte de s'effacer. C'est une vertu d'effacement, mais comprenons bien, pas d'infériorité, une vertu d'effacement dans la lumière, dans la lucidité. L'être humble est très lucide. L'être humble a cette lucidité de la sagesse, de la prudence, de l'amitié et de l'art. C'est pas une vertu intellectuelle. Et c'est une lucidité qui provient de cet amour qu'on a de laisser passer l'autre devant, qu'il s'agisse de Dieu qu'il s'agisse de l'ami, qu'il s'agisse quelquefois du bien commun, la prudence, qu'il s'agisse de l'œuvre. Laissez passer devant l'autre. Et donc l'humilité s'acquiert dans la lutte, et dans la lutte la plus terrible que représente l'orgueil. Des bouffées d'orgueil, vous savez, c'est terrible. On sent qu'on voudrait être le seul. Il y a quelque chose de tyrannique dans l'orgueil. On voudrait être le seul. Alors ça devient intolérable et irrespirable. Parce que celui qui est à côté n'a plus d'oxygène à respirer. Tout pas pour l'orgueilleux. Et c'est pour ça que l'orgueilleux est toujours tyrannique. Alors que l'humble, celui qui cherche l'humilité, qui essaie d'acquérir l'humilité, fait toujours passer devant Dieu l'ami, le bien commun, l'œuvre. Il faut essayer de découvrir cette petite vertu. Cette petite vertu qui est la condition sine qua non pour la sagesse, pour l'amour d'amitié, pour le bien commun, au point de vue prudentiel, et pour l'œuvre qu'on doit réaliser. Petite condition sine qua non. Très curieux, l'humilité. C'est pas commode, hein. Eh bien, tu vois ce que c'est que l'humilité? Eh bien, je crois que l'humilité ne naît qu'à partir de l'adoration. L'humilité ne peut pas naître en dehors de cette relation vis-à-vis de Dieu. Où il peut y avoir une certaine humilité à partir de l'amour d'amitié entre amis, mais ça n'atteint pas l'aspect de l'habitus et de la vertu, ça demeure une disposition. Je crois que l'amitié ne peut pas permettre l'éclosion d'un véritable habitus d'humilité, une véritable vertu d'humilité. Ça ne peut donner qu'une disposition, une inclination. Seul Dieu, découvert comme créateur, me permet d'aller suffisamment loin dans la découverte de l'autre et dans son autonomie et dans son développement propre pour découvrir ce que c'est que la vertu d'humilité. C'est pour ça qu'elle est ignorée dans une morale qui est purement humaine et qui n'est pas religieuse. À côté de l'humilité, il y a une autre vertu qui sera la vertu de miséricorde. Elle aussi ne peut naître que dans un terrain religieux, que dans une relation religieuse. Autrement, elle apparaît toujours comme une faiblesse. C'est la justice qui veut prendre toute la place. La justice, elle naît dans une éthique purement humaine. Et une éthique purement humaine comprend l'exigence de la justice. L'amour d'amitié réclame la justice. L'autre, avec ses droits propres. Quand l'amour d'amitié ne respecte pas la justice, l'amour d'amitié se tue lui-même. quelque chose qui fait que l'amour d'amitié ne peut plus se développer. L'amour d'amitié n'a plus assez, j'allais dire, d'oxygène. Quand il n'y a pas de justice, parce qu'on ne respecte pas assez l'autre. Alors au fond, à ce moment-là, où l'irascible, où le concupiscible emporte. Donc on voit très bien pourquoi, dans une éthique purement humaine, la justice est fondamentale. Le respect à l'égard de l'autre. Ce qui permet à l'amour d'amitié d'exister. Parce que si vous n'avez plus le respect de l'autre, vous ne pouvez plus aimer vraiment. Quelque chose qui va naître en plus grâce à l'humilité. Dans les rapports d'amitié, c'est la miséricorde. Vous allez vous apercevoir dans l'ami de ses fragilités. Vous allez vous apercevoir qu'il peut y avoir chez l'ami un abîme de fragilité, d'angoisse. À ce moment-là, on est tenté. Regarder chez lui une incapacité radicale d'aimer à cause de l'angoisse. Et donc, de le rejeter. La miséricorde va permettre de ne pas le rejeter. De le porter en regardant que ses misères, que ses incapacités, que ses faiblesses qui existent, qui viennent handicaper et quelquefois plus qu'handicaper, supprimer la possibilité d'aimer. D'aimer l'autre, d'aimer l'ami, et même qui semble ne plus respecter l'ami. Ça peut arriver que certaines fragilités psychologiques mettent l'ami dans des conditions telles que l'ami devient un tyran. C'est là où il faudrait regarder. D'où vient cette tyrannie et comment elle se développe. Mais c'est un fait, on le sait très bien. Et cette espèce de tyrannie empêche l'ami d'exercer son amitié. Comme cet ami est toujours pris par cette angoisse, c'est très difficile à l'ami de dépasser cela. Il ne peut le faire que dans un regard de miséricorde. Et ce regard de miséricorde ne peut naître comme vertu de miséricorde. Dans la lumière d'une attitude religieuse. Vous voyez, au fond, il faudrait regarder la naissance de la vertu de religion, de la vertu de miséricorde et se poser la question, on le fera, est-ce que la vertu de miséricorde ne peut naître que dans un climat chrétien, ou est-ce qu'elle peut naître dans un climat religieux? Pour moi, c'est une très grave question et très importante. L'humilité naît dans un climat religieux. Ça, c'est très vrai. Elle n'est pas forcément chrétienne. Est-ce que la miséricorde est typiquement chrétienne? Ou est-ce que la miséricorde peut naître dans un climat religieux?